Pendant ce temps, la petite Erna grandissait de jour en jour et enlaidissait d'heure en heure. Comme elle n'avait pas conscience de la tare qui l'affligeait, la nuit, elle dormait d'un sommeil profond, dans une insouciance totale, et durant la journée, elle mangeait de bon appétit. Elle était une enfant joyeuse et pleine de vie. Vers l'âge de 3 ans, sa ressemblance frappante avec les portraits d'Erne le Grand devint pour tous les courtisans une évidence. Mais dès cet âge tendre, elle révéla ses belles qualités intérieures faites de gentillesse, de patience et de douceur. Son esprit, clair, vif et précis, nourrissait son éternelle convivialité, son attention aux autres, son amour des personnes et des animaux. C'est vers cette époque qu'un jour, la reine s'approcha du roi et lui dit « Mon souverain et cher mari, je désire vous demander une grande faveur pour notre fille. Demandez mon épouse, bien-aimée. Vous savez vous-même que je ne peux rien vous refuser. » Notre fille grandit et, apparemment, Dieu l'a dotée d'un esprit exceptionnel qui se développe bien plus vite que son corps. Bientôt viendra le jour fatidique où notre gentille et bien-aimée Erna se rendra compte, en se comparant aux autres, de la laideur de son visage. Et j'ai peur que cette révélation ne lui procure beaucoup de chagrin et de douleur, non seulement le jour où cela arrivera, mais pour le reste de sa vie. Vous avez raison, chère épouse, mais par quelle grâce pensez-vous détourner ou adoucir ce choc inévitable qui se prépare pour notre fille si chère? Ne vous fâchez pas, Seigneur, si mon idée vous semble ridicule, mais il faudra qu'Erna ne voie jamais son reflet dans une glace. Ensuite, si une langue perverse ou insouciante lui dit qu'elle est vilaine, elle ne saura jamais toute l'étendue de sa laideur. Et pour cela, vous désireriez, oui, qu'il ne reste plus un seul miroir à Ernoterra. Le roi réfléchit, puis il dit « Ce sera, certes, une grande privation pour notre bon peuple. Depuis la loi d'égalité des sexes que promulgua mon grand ancêtre, les hommes de notre royaume sont tout aussi coquets que les femmes. Mais nous connaissons l'amour profond qu'ils nous portent et leur fidèle dévouement à la maison royale. Nous sommes convaincus que tous feront volontiers ce petit sacrifice. Dès aujourd'hui, je publierai un décret et, par les héros, nous en informerons nos sujets afin que tous les miroirs, qu'ils soient en verre ou en métal, soient détruits et bannis d'Ernoterra. » Le roi ne se trompait pas sur son peuple qui, en ces temps heureux, avait un attachement filial à la famille royale. Les Ernotériens, avec une grande sympathie, comprirent quel motif délicat guidait le commandement de leur souverain et remirent volontiers tous leurs miroirs, et même les éclats de miroirs brisés, à la garde royale. Certes, quelques farceurs ne purent s'abstenir d'organiser une joyeuse manifestation en défilant devant le palais, les cheveux ébouriffés, après s'être recouvert le visage de boue. Mais quand le bon peuple rit, même avec une touche de satire, le monarque peut dormir en toute sérénité. Le sacrifice demandé par le roi à ses sujets était d'autant plus significatif que les ruisseaux et les petits torrents de montagne d'Ernoterra étaient si impétueux que rien jamais ne s'y reflétait.